le pire, au fond, pour quelqu'un aujourd'hui, pas seulement pour les écrivains, ce serait d'être confiné en soi-même. La vieille tour d'ivoire, comme on disait pour les poètes, ça me semble tellement dépassé, tellement ridicule. Le fait de réfléchir, de penser, d'aimer, et ces trois mots coïncident dans l'acte d'écrire, ben tout ça implique d'être absolument à l'écoute, enfin de sortir de chez soi à tous les sens du terme.
Il n'a pas d'actualité précise et c'est bien quand une personnalité prend deux heures pour exprimer par le choix de ses invités ses goûts, ses aspirations. Il est comme une photographie passée de bain en bain qui lentement se révèle au fil des conversations. Yannick Enel connaît la solitude, celle de l'écrivain assis à son bureau, mais vous l'entendiez, il est curieux aussi des autres et du monde dans lequel il vit. Pour Charlie Hebdo, par exemple, en fin d'année dernière, il a rédigé nuit après nuit ce qu'il avait entendu le jour au tribunal durant le procès des attentats de 2015. Entendre, comprendre la violence, peut-être celle que l'on assène, celle que l'on subit, et la restituer avec des mots. Entre autres expériences, il s'est laissé aussi enfermer au Centre Pompidou, à Paris, dans l'exposition du peintre Bacon, pour ressentir autant d'émotions que de peur, pour s'éprouver et pour l'écrire. Comme lui, dans ses romans, les petits soldats cerclent Yann Karski, tient ferme ta couronne, les personnages s'éprouvent. Ils se mettent en marche, découvrent le monde, sa beauté, sa monstruosité, et cette fréquentation les modifie. Bonjour Yannick Enel.
Bonjour.
L'écrivain que vous êtes, en fait, ne se conçoit pas sans nous. Nous, humains, dans nos fragilités, nos forces, notre folie, nous vous animons.
Je crois que les phrases, celles qu'on cherche, celles qu'on écrit, sont des aventures. Je crois même que c'est Flaubert qui a dit ça. Les phrases sont des aventures.
C'est voilà. Beau.
Bah, c'est pas mal, oui.
Ça veut dire qu'on peut prendre un chemin à droite, à gauche, au centre, et qu'on ne sait pas vraiment, quand on commence à écrire, quel sera ce chemin.
Ben, ça veut dire que dans chaque phrase, il y a le monde entier. Et il n'y a pas seulement notre solitude, ni même notre plus grande solitude, mais il y a du monde. Les phrases sont des rencontres. Et pour moi, depuis que je suis petit, au fond, la poésie, le cœur poétique de chaque phrase, c'est ma manière à moi de penser, voilà. Je pense en phrase, je m'ouvre en phrase, j'aime en phrase. Hein. Rien ne va sans dire, je crois que tous les psychanalystes savent ça.
Quand vous dites j'étais petit et je pensais déjà en termes de phrases et j'avais un appétit de mots, je vous pense en Afrique parce que vous êtes le fils d'un militaire qui a notamment travaillé en Afrique et les enfants aînés étaient là-bas avec lui, et la famille était là-bas.
Ouais.
Et comment, dans cette Afrique de l'enfance, les mots viennent à Yannick Enel ?
Mais par la musique. Par le chant et la musique, par les ritournelles. Les ritournelles à la fois Hausa et Djerma, puisqu'on était au Niger. Les ritournelles Bambara, les ritournelles françaises. Donc on baignait dans des langues qu'on comprenait parfois pas, ma sœur et moi. Les phrases musicales, leur tempo, leur vibration, leur érotisme. Voilà, c'est dès l'origine, il y a ça.
Déjà, parce que dans vos livres, on les trouve aussi, ces moments où l'érotisme a besoin d'être présent, parce que le monde est parfois monstrueux. Alors un livre, un roman d'Yannick Enel oscille entre cette description de ce qu'on peut vivre d'horrible ou d'heureux, mais aussi la jouissance nécessaire, comme un contrepoint.
Mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, avant, on parlait, je veux dire, dans les temps anciens, d'enfer et de paradis, mais ce sont les deux polarités de l'existence elle-même. Enfin, chaque jour, je dirais, angoisse et jouissance. Et je pense qu'une véritable expérience, pas seulement d'écriture, pas seulement de littérature, mais de pensée, de vie, tout simplement, c'est une négociation intime avec ces deux polarités-là, hein, avec le pire et le plus beau, enfin... Et moi, tous les gens que j'aime et qui me font travailler, qui me font réfléchir, qui m'octroient un peu plus de vie et d'existence, et j'en ai invité aujourd'hui,
sont
des personnes qui précisément sont travaillées par cette polarité.
Alors on les présente, c'est Delphine Horviller qui est rabbin. Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Et puis un historien masqué. C'est Patrick Boucheron. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Aussi. On se souvient
merci
de votre grand atelier. L'historien que vous êtes, Patrick Boucheron, animateur d'une somme récente. L'histoire mondiale de la France est à la frontière entre plusieurs domaines. Et c'est sans doute une avancée d'ailleurs dans la pratique du métier d'historien. Vous êtes scientifique, chercheur, à l'origine un médiéviste, un spécialiste de la Renaissance, mais le contemporain est aussi un temps qui vous habite. On vous voit associé à un théâtre, le TNB de Rennes. On peut vous voir au cinéma quand Bertrand Bonello vous dit « Venez passer une scène chez moi » dans le film « Zombie Child ». L'historien comme le romancier Enel doit sortir de son bureau, de sa bibliothèque.
Qu'est-ce que cherche vraiment un chercheur ? Il cherche ce que
Yannick Hanel décrit comme le lieu où l'on peut être vivant. Alors évidemment, il y a du savoir, bien sûr, il y a de la vérité, et c'est très important, la vérité, et en particulier dans l'œuvre de Yannick Hanel, j'y reviendrai, c'est un mot qui peut peser effectivement son lest métaphysique et donc inquiéter, mais, oui. Mais en fait...
La recherche de la vérité.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'on la trouve. Hein.
Vous y faisiez allusion pour celles et ceux qui ont lu les comptes rendus du procès des attentats de
2015.
Eh bien, ce mot-là était, Yannick, obsédant, la vérité. C'est-à-dire, et la vérité de la parole. C'est-à-dire pas le fait qui vous donne raison, mais ce qui, au fond, surgit de l'intérieur même du langage.
Delphine Horwiller, est-ce que ça vous parle, ce que dit à l'instant Patrick Boucheron, votre voisin historien?
Oui, absolument.
Parce que je vois que vous prenez des notes.
Oui, parce que moi je gribouille toujours, j'ai besoin du rapport entre l'écrit et l'oral, c'est peut-être une déformation professionnelle, j'ai besoin d'écrire, réfléchir.
Qu'est-ce que vous avez noté comme mot, là?
J'ai noté la phrase, une phrase comme une aventure, parce que je trouve que c'est tellement juste, à la fois le processus d'écriture qui fait que on ne sait pas jamais où la phrase vous emmène, mais aussi la conscience que la phrase, même une fois écrite, n'a pas fini son aventure. C'est-à-dire que la question de l'interprétation et l'exégèse fait comprendre à tout lecteur que les mots n'ont pas fini de parler et qu'ils attendent qu'un nouveau lecteur s'en empare, un lecteur qui parfois n'est pas encore né, n'a pas encore surgi. Et ça nous oblige à beaucoup d'humilité quand on est dans un travail d'écriture.
Parce que vous écrivez aussi pas mal de livres, hein, assez régulièrement, qui sont sans doute des sommes qui tâchent de faire de la pédagogie, faire en sorte que nous vivions bien ensemble, que nous soyons croyants ou athées d'ailleurs, vous faites en sorte de nous réunir.
Je crois que la religion, enfin comme son nom l'indique ou devrait l'indiquer étymologiquement, est un souci de relier. À la fois un souci de relier ou un souci de relire. Vous savez qu'il y a une ambiguïté sur ce que signifie exactement le mot religieux, et je suis attachée à ces deux significations. Le fait que dans ma démarche, je me pose la question toujours du lien possible, du lien que permet le texte à l'intérieur d'une génération ou entre les générations, entre les gens, entre des gens différents, et la capacité de relire que nous propose un texte. Pour moi, l'entreprise religieuse, c'est toujours une entreprise de relecture, c'est-à-dire la conscience que on ne sait pas ce qu'a voulu dire l'auteur, et parce qu'on est dans cette humilité d'un contexte différent, eh ben on peut encore faire parler le texte, et on sait qu'on peut le faire parler pour la vie ou pour la mort. On sait malheureusement, et Yannick en a été ô combien témoin, voilà, dans ce procès qu'il a suivi, qu'il y a des gens qui font parler les textes pour la mort, mais il y a une possibilité de les faire parler autrement, et c'est une question de responsabilité du lecteur.
On va évoquer, développer tous ces grands et beaux thèmes que vous-même venez d'évoquer, Patrick Boucheron, Delphine Horwiller et Yannick Hanel. On va écouter un peu de musique, parce que vous êtes amateur de musique depuis toujours, peut-être depuis l'Afrique, vous le disiez, elle est entrée en vous quand vous étiez un petit garçon. Vous écoutez de la musique africaine, vous écoutez du baroque, vous écoutez du rock. Il y a une femme qui vous touche particulièrement, c'est l'américaine Cat Power, on m'a dit.
Absolument. Elle me fait même pleurer, au fond.
Et pourquoi?
Pour moi, elle fait du blues sans avoir besoin de faire du blues. C'est une baudelairienne, vous voyez. Je sais pas si elle lit beaucoup Baudelaire, peut-être que oui. Il y a cette mélancolie qui frôle sans cesse la vérité dont parlait Patrick Boucheron, une vérité sensible, une vérité à la fois qui parle au cœur, qui n'est pas vérifiable, qui ne relève pas de la preuve, mais qui relève aussi chez elle, je le sens bien, enfin... D'une histoire de la douceur, comme dirait Patrick Boucheron, et d'une histoire du malheur aussi.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
You can watch the space.
Cat Power, qui n'émeut pas seulement Yannick Enel, bien sûr, peut-être vous chez vous, mais aussi Patrick Boucheron.
Oui, parce que en fait, par hasard, c'est la bande son de mon travail actuellement.
Ah,
je
oui
travaille sur La Peste Noire, et dans son dernier album, il y a un morceau magnifique qui s'appelle Black, et où en fond sonore, elle dit la grande faucheuse, en français.
La musique vous accompagne aussi alors dans votre travail d'historien. Oui. Yannick Enel, vous avez choisi pour la première heure l'historien Patrick Boucheron et le rabbin, on dit le rabbin. Hein,
oui, on dit le rabbin.
Delphine Horviller, en nous disant, j'ai envie de gens avec qui je dialogue, j'ai envie de la présence de ces personnes-là parce qu'il y a un dialogue. Par exemple, avec Delphine Horviller, rabbin, quel est le dialogue de Yannick Enel et de Delphine Horviller?
Alors, c'est un dialogue qui ne fait que commencer, puisqu'on ne s'est jamais rencontré. J'ai profité de l'occasion pour choisir quelqu'un que j'ai très envie de connaître. Mais c'est un dialogue qui a toujours déjà lieu, comme dirait Derrida. Enfin, parce que pour moi, la littérature, c'est une expérience intérieure. Et je me pose sans cesse, à chaque instant, la question de la possibilité de l'expérience intérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la violence du monde, dans le fracas de nos activités, dans nos connexions et déconnexions permanentes, est-ce qu'on a non seulement le temps, mais l'envie encore d'une expérience intérieure? Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'une expérience intérieure, enfin, c'est vraiment des questions que je me pose. Est-ce qu'on peut avoir une expérience intérieure quand on ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce que c'est que de croire en Dieu? Enfin, vous voyez, je me pose carrément des questions avec des grands mots. Hein.
Mais qu'est-ce que vous appelez une expérience intérieure après tout?
J'aimerais poser la question à Delphine Horviller. Moi, j'essaye. Mes réponses sont mes romans, en fond. Des initiations personnelles à l'existence. Enfin, le fait de s'initier à chaque instant à l'existence et de revenir sur soi pour y penser. Mais je sais pas, oui, je me demande comment on fait. Voilà.
D'abord, je dois dire, je suis très touchée par cette invitation parce que moi, j'ai croisé Yannick Enel par de bien des manières, sa voix, ses livres. Et puis, alors je ne sais pas s'il le sait, mais je pense que peut-être qu'il le sait cette année. En fait, c'est lui qui m'a soufflé mon sermon de Yom Kippour. En fait, au jour de Yom Kippour, qui est le jour le plus important de l'année juive, dans le sens où c'est un moment de retrouvailles de toute une communauté, un moment difficile pour les rabbins souvent, parce qu'il faut écrire un grand sermon que les fidèles attendent toute l'année. Et ben la veille de Yom Kippour, alors que je cherchais ce que je devais dire, les procès venaient de commencer, les procès des attentats de janvier 2015, et dans ma tête, il y avait un air de la liturgie juive qui résonnait, celui qui ouvre Yom Kippour. Il y a un chant qui ouvre Yom Kippour avec ces mots. Je peux même les chanter. Ça
Allez-y.
Commence par Vishiva shel malam, Vishiva shel matam. Ça veut dire dans l'assemblée céleste, dans l'assemblée de ceux qui sont en haut et dans l'assemblée de ceux qui sont en bas, nous autorisons tous ceux qui sont présents à prier. C'est-à-dire que c'est une sorte de trois coups de théâtre. On ouvre ce moment par la conscience de ceux qui est en haut et de ceux qui est en bas, qui se rejoint en cet instant. Et quand je pensais à ce chant, quand je m'y préparais, j'ai commencé à lire un article que Yannick avait écrit.
Dans Charlie Hebdo, sur les procès. Voilà, oui.
Qui était précisément le témoignage de Zari Siboni, de cette caissière de l'hypercachère.
De Vincennes, oui, qui a sauvé des gens, qui les a accompagnés,
qui a été
menacé par Koulibaly.
Et la façon dont Yannick le racontait, de façon tout à fait étrange, c'est qu'il parlait du monde d'en haut, et du monde d'en bas, mais qui racontait ce qui se passait au cœur de l'hypercachère, ces escaliers, il y avait des gens en haut, et il y avait des gens cachés en bas, et la façon dont elle a fait le lien, Vishiva shel malam, Vishiva shel matam. En fait, tout à coup, il me paraissait évident qu'elle avait été, dans la façon dont tu le racontais, le tutoyais, vous le racontiez, qu'elle avait finalement été comme une présence, je ne sais pas si on peut dire un ange, au contraire, une humanité puissante qui faisait le lien entre en haut et en bas. Et donc, voilà, les mots de Yannick Enel m'ont accompagné, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, des moments où on a besoin de ce dialogue. C'est intéressant parce qu'on parlait du dialogue intérieur. Et on posait la question, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue intérieur? Moi, je pense que...
Une expérience intérieure, même.
Oui. Ouais. Mais je trouve que tout dialogue intérieur implique la prise de conscience qu'il n'y a pas de monologue intérieur. Il n'y a pas de monologue intérieur, en fait. Tout monologue est la conscience qu'il y a un autre en soi. Et quand on commence à savoir qu'il y a de l'autre en soi, mais c'est de l'autre dans son texte, de l'autre dans sa voix, de l'autre dans son histoire, eh ben ça devient intéressant.
Est-ce que ça parle à l'historien que je crois athée, Patrick Boucheron?
Oui, bien sûr, parce que c'est une manière aussi de définir la littérature comme Yannick Enel le fait, c'est-à-dire de manière à la fois tendre, érotisée et intransigeante, et qui est tout le contraire au fond de l'expression de soi, qui est une manière de se rendre ouvert, offert, disponible à tout ce qui peut venir de loin. Je signale au passage d'ailleurs que pour celles et ceux qui voudraient, alors évidemment il y a tous les livres de Yannick à lire, hein, mais un des petits derniers qui s'appelle Diane et Actéon, le désir d'écrire, dit bien cette harpe poétique, et je me permets d'en citer un passage qui justement va résonner avec ce que dit Delphine Horviller. Je pense que la littérature est un lieu où des voix, arrivées de toujours, s'en vont partout, comme dirait Rimbaud. Un lieu où il n'est pas possible de se satisfaire de sa petite voix personnelle, mais où le langage s'ouvre aux voix qui ne cessent de revenir depuis toutes les époques, où il fait l'expérience de cette parole qui parle à l'intérieur de la parole.
Ah oui, on est dans le sujet.
J'ai l'impression. Oui. Mmh.
Et moi, quand j'entends Yannick Enel poser comme première question à Delphine Horviller, à Rabin, qu'est-ce qu'une expérience intérieure, je me projette, je suis peut-être un peu trop sentimental, dans votre adolescence, Yannick Enel. Vous entrez d'Afrique avec vos parents et on vous place dans un lycée militaire célèbre, le Prytané militaire de la Flèche, si je ne m'abuse. Oui. Et vous êtes un enfant hyper malheureux, vous êtes en treillis, crâne rasé, avec une éducation très rigoureuse, très sévère, sans doute injuste. Et plutôt que de vous enfuir, ou pourquoi pas de mettre fin à vos jours, tellement la violence était réelle dans votre éducation, vous décidez justement de vous intérioriser. Vous pensez à l'intérieur de vous-même, vous lisez, l'écriture va naître de ce conflit avec le monde extérieur. Elle est là votre première grande expérience intérieure.
C'est vrai, elle relève de la coercition, disons, qui s'exerce sur une communauté d'enfants, au fond. Mais oui, j'ai choisi à la fois de m'enfermer, mais de manière, je dirais, tactique. Puisque l'affrontement nous vouait déjà à l'échec, c'était suicidaire. Et j'ai choisi, je sais pas, j'ai eu un coup de lucidité à 14 ans, j'ai choisi de déserter intérieurement.
C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passait dans votre tête?
Eh ben, je me suis dit qu'il fallait que j'attende et que mon temps arriverait. Voilà, c'était un pari un peu fou, hein, de faire une parenthèse dans sa vie jusqu'à, en attendant que je sorte de là.
Et en la nourrissant de lecture?
Alors c'est là que j'ai lu, effectivement, L'autre est à mon, Moby Dick. Il y a deux choses qui m'ont foudroyé. Quelqu'un m'a dit, c'était un grand, comme on dit au lycée, un grand m'a dit, tiens, ça, tu vas lire ça, tu vas voir, ça va t'électriser. C'était Les Chants de Maldoror de L'autre est à mon. Et ça a été fou parce que ça parlait de quelque chose qui était bien plus puissant que la coercition militaire. C'était tout simplement le satanique, en fait, le diable. Et la manière dont une révolte pouvait avoir lieu. C'est-à-dire qu'on m'a offert la possibilité dans la littérature, tout de suite, à travers un livre, de me placer sur un plan métaphysique. Voilà. Je me suis ménagé comme ça une petite expérience intérieure, alors qui est celle du léger retrait.
Est-ce que ce retrait vous a amené à l'écriture?
Bah, je pense, oui, parce que quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui est absolument au cœur de toutes les choses, qui aurait même, dans le meilleur des cas, la faculté d'aimer les pensées des autres plus que soi-même. Pas de se les approprier, mais de s'ouvrir à toutes les pensées. Et c'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir une solitude. Tout nous prive aujourd'hui de la solitude. Avoir une solitude, la posséder, comme Rimbaud parle de posséder la vérité dans un corps et une âme, c'est le dernier trésor, le plus précieux. Plus on arrive à avoir une solitude, plus on aime les autres.
Vous aimez Aragon?
Ouais, beaucoup. Ouais. La défense de l'infini, par exemple, me bouleverse. Son côté anarchiste, ça me grise. Enfin, les années où je le trouvais plus fort que Breton. Enfin, lui aussi s'est réservé. Il a pas tout dit. C'est un homme masqué. Enfin, Aragon. Donc, dans les années 20, c'est prodigieux ce qu'il écrit. Le libertinage, la défense de l'infini, le paysan de Paris. C'est cette période que j'aime pour l'instant.
J'ai envie qu'on écoute du Aragon par Ferré quand il s'agit de l'étrangère, parce qu'il y a finalement pas mal d'érotisme dans ce texte.
Ben j'adore Léo Ferré aussi. Oui.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture. extraordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fente. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir, madame, l'amour s'achève avec la pluie.
Yannick Enel, la présence de Patrick Boucheron, à quoi est-elle due? Quel est le dialogue entre cet historien médiéviste à l'origine, mais qui s'intéresse finalement à toutes les époques, hein, et vous, le romancier?
Alors, d'abord, j'ai tout simplement lu ses livres. Il y a un livre qui s'appelle « Conjurer la peur », qui m'a ébloui, parce que c'est un livre qui s'attache à décrire, sur une centaine de pages, une fresque de Ambrogio Lorenzetti. C'est une fresque qu'on peut voir dans un palais à Sienne et qui parle du mauvais et du bon gouvernement. Ça, c'est quand même une question qu'on se pose à peu près tous, qui a traversé les temps. Et surtout, à travers cette étude, très vite, dès les premières phrases, j'ai été stupéfait quand j'ai lu ce livre-là, de voir que dans la grande tradition des très grands historiens, il y a une langue qui devient en fait le véritable sujet. C'est-à-dire que c'est une expérience poétique. Il s'agit pas seulement de décrire à plat quelque chose qu'on irait sortir du passé et qu'on exhumerait simplement pour le nettoyer un peu, mais de redonner vie par la langue, par la parole justement, à quelque chose qui est là de toujours. Enfin, et alors, plus précisément, il y a une page où Patrick Boucheron, dans le dernier chapitre, se permet de parler à la première personne et il raconte un dernier voyage à Sienne, où il retourne pour revoir et revoir encore cette fresque, il tourne autour, et il se rend compte qu'il y a une chose qui peut-être à la fois manque et complète cette fresque, c'est qu'il y a une fenêtre dans le palais, et il rentre à nouveau dans ce palais, et il regarde à nouveau la fresque, et comme il n'y a personne, il va se permettre d'ouvrir la fenêtre, et en ouvrant la fenêtre, en faisant entrer le soleil et la lumière toscane, il se rend compte que cette fresque, qu'on croyait incomplète, finalement est complète grâce à la lumière du dehors. Bon, ça c'est bouleversant, enfin là je me suis dit c'est génial de faire de l'histoire, j'aurais dû faire ça.
Patrick Boucheron, c'est important ce que dit Yannick Haenel, on parle toujours de la sacro-sainte objectivité de l'historien, et vous nous dites non, un historien peut faire avec son propre tamis, sa propre expérience, avec son jeu J.E.
Oui, et puis en acceptant l'idée que le réel, l'aujourd'hui, le bel aujourd'hui fasse effraction dans voilà une étude qui par ailleurs doit être patiente et scrupuleuse. Mais effectivement, avec Yannick Haenel, on s'est trouvé là-dessus, c'est-à-dire sur les rapports entre l'histoire et la littérature. Voilà, ça a commencé avec la discussion autour de son livre Yann Karski, et puis aussi avec Arthur Noziciel, que vous allez voir dans la deuxième heure, je crois.
Il sera tout à l'heure, le metteur en scène, qui a mis en scène Yann Karski.
Oui, donc ça nous est commun, tout ça. Mais plus profondément, ce rapport, enfin ce débat, ou je sais pas comment l'appeler, en fait, cette ritournelle entre histoire et littérature, elle ne gagne pas à être réduite au face-à-face entre le réel et la fiction. Et il vaut mieux effectivement qu'elle s'empare de la question de la langue. Et puis effectivement, ça me fait plaisir ce que dit Yannick Haenel, parce qu'à la toute fin de ce livre, il me semble que j'accroche peut-être quelque chose qui est vraiment la limite, la frontière, on a parlé aussi ensemble de frontières entre l'histoire et la littérature, qui est moins la question de jusqu'où va me mener la phrase que serais-je capable de faire, comme le dit, comme l'écrit Marguerite Yourcenar, le portrait d'une voix. C'est-à-dire, au fond, la littérature, elle commence quand même aussi avec l'invention d'un narrateur qui n'est pas tout à fait soi. Donc le jeu. En fait, ce moment-là dans le livre, je crois que je veux pas me faire l'exégète de moi-même. Enfin, ce n'est plus tout à fait moi. Précisément parce qu'il se laisse un peu glisser à la fois sur les pentes douces des collines toscanes, de part et d'autre de la fenêtre, les réels, les peintes, et puis aussi une sorte de bruit du temps, comme vous disiez.
Yannick Haenel a employé le mot poésie à votre sujet, en tout cas au sujet de votre écriture. Vous revendiquez le fait d'être poète à votre manière, à votre façon, Patrick Boucheron, quand vous écrivez un livre d'histoire ?
Seulement si on se souvient, avec Yves Bonnefoy, mais avec tant d'autres,
que
la poésie délivre une leçon d'exactitude. C'est-à-dire que je ne vais pas poétiser mon dire quand ça m'arrange parce que je ne suis plus sûr de rien. Non, au contraire, ça servirait plutôt à désigner le moment où on devrait, comme dans Diane et Actéon, j'y reviens, se laisser éclabousser par la vérité.
Delphine Orbiller.
Moi, je suis très sensible au dialogue qui est le vôtre entre littérature et histoire. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que finalement, je me rends compte que dans mon travail aujourd'hui au sein de la pensée religieuse, finalement, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de redonner à l'histoire sa place dans l'exégèse. Je pense que ce qui définit aujourd'hui tous les fondamentalismes qui nous menacent, c'est la façon dont ils tentent d'expulser l'histoire de leur lecture. Et je trouve que c'est vraiment la question qu'il faut aujourd'hui travailler, la conscience des sédimentations historiques qui existent au sein de nos traditions religieuses.
Vous faites beaucoup ça dans vos livres. Quand je lis « Réflexions sur la question antisémite » de Delphine Orbiller, je vois que vous faites appel aux textes anciens pour essayer de comprendre comment l'antisémitisme est né, mais vous partez des textes.
Oui, je crois que je reviens toujours au texte, mais dans la conscience que, comme je disais tout à l'heure, le texte ne peut pas être lu hors contexte. Et le propre de tous les fondamentalistes, c'est que ils font comme si on pouvait lire hors contexte, comme si le texte avait toujours voulu dire ce qu'eux en comprennent. Alors que la vraie démarche d'exégèse, elle implique au départ de reconnaître qu'on ne comprend pas parce que nous ne vivons pas autant de ceux qui l'ont lu ou écrit ou édité. Et cette démarche, en fait, où d'une certaine manière, on est dans un exil de sens, en fait. C'est intéressant, tout à l'heure, on parlait de l'expérience d'adolescence ou de jeunesse de Yannick qui a impliqué qu'il se mette lui-même dans un exil intérieur. Je trouve que tout travail de lecture, en fait, implique de se savoir exiler dans son texte. C'est-à-dire qu'on est un étranger à celui qui nous l'a transmis. Et donc on va s'en emparer en ayant fait un pas de côté dans la conscience aussi des sédimentations historiques qui sont à l'intérieur même de ma tradition et de ma lecture. Moi, je sais, quand je m'intéresse au texte, mais aussi au rite, au calendrier de ma tradition religieuse, je m'oblige à reconnaître, à percevoir toutes les influences étrangères qui l'ont constitué. C'est-à-dire que je peux vous dire, pour chaque fête juive, mais c'est vrai de chaque tradition autre religieuse, je peux vous dire ce qu'elle doit à sa rencontre avec un autre. Et tous ces gens qui vous racontent leur histoire comme si elle était pure de toute contamination, de toute influence, sont en fait des lecteurs mortifères. Et c'est exactement ce qu'il faut combattre aujourd'hui.
Yannick Hennel.
Oui, ça me plaît beaucoup de vous entendre, Delphine. Parce qu'au fond, je suis frappé par le fait que vous délaissiez toute certitude et que l'herméneutique, enfin le fait de réfléchir avec des textes, soit une, si j'entends bien ce que vous dites, soit une école du doute, au fond. J'avais relevé une phrase dans la revue dont vous vous occupez, Ténoua, qui est une très belle revue d'analyse, enfin de pensée. Il y a cette phrase qui m'a aidé pendant ces jours de procès interminables. Vous dites « Tout débat qui nous élève fait violence à nos idées, précisément pour ne pas faire violence à des hommes. » La pensée doit faire violence à nos idées. C'est extraordinaire de limpidité, de simplicité, c'est le béaba, et c'est précisément ce que tous les violents oublient. Que penser, c'est d'abord se faire violence à soi. Parce qu'au fond, dès qu'on se met à être sûr de soi dans sa propre pensée, alors on dérive vers la connerie, tout simplement, et la connerie, ce qui est le plus violent.
Ça doit parler à l'historien Patrick Boucheron, ça.
Ou simplement aux citoyens qui constatent qu'aujourd'hui, ce dont nous souffrons, c'est effectivement que la plupart, dans le débat public, de celles et ceux qui croient avoir raison, pensent qu'ils ont raison au seul motif qu'ils adhèrent à leurs propres convictions. Et donc, ce travail sur le texte, lire, relire, relier, c'est aussi un travail sur la transmission. Voilà, c'est évidemment quelque chose qui vous est commun, je crois, Delphine et Yannick. C'est-à-dire cette idée que ça ne nous vient pas tout cuit, on n'est pas indemne, on peut pas arriver comme ça dans le passé, comme si on y déboulait tout neuf. Si j'entends Ruteboeuf, par exemple, je l'entends chanté par Léo Ferré. Et je peux pas faire comme si je n'avais pas entendu Léo Ferré. Et même en tant que médiéviste, je dois effectivement faire gaffe. Je dois ne pas éclabousser, pour le coup, le passé de mes affects. Mais il me faut aussi considérer que ce passé, il me vient par une chaîne de transmission. Et que cette transmission, évidemment, le transforme. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est aussi dans le rapport sacré qui est, au fond, est-ce que si on historicise une question, une valeur, un désir, une œuvre, si on rappelle simplement qu'elle est fille du temps, est-ce qu'on la désacralise? Est-ce qu'on la profane? Moi, je n'ai jamais compris ça. Puisque je suis historien, je considère qu'on ne rabaisse pas quelque chose en le ramenant à son histoire. Et au contraire.
Au contraire.
Et même en riant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il me semble qu'on peut rire du sacré, et que plus on rit du sacré, plus ce sacré existe en s'accordant à son cœur même. C'est pas trahir le sacré que d'en rire.
Le chroniqueur à Charlie Hebdo, entre autres, qui parle en vous.
Mais pas seulement. Je me dis que l'absolu ne souffre pas de l'autodérision, mais justement, plus on est dans l'autodérision, plus cet absolu qu'on essaye de vivre va s'affiner, en fait. C'est pas contradictoire.
Et alors, quand on est rabbin, on a de l'autodérision, il faut en avoir, on n'a pas de certitude.
Bien sûr,
comme le disait Yannick Hennel, Delphine Orvilla.
Ça, je pense, ça devient dangereux quand on l'a plus. C'est vrai qu'au cœur de ma tradition, de la tradition juive, il y a une place très forte donnée à l'humour et à la dérision, parce que c'est un outil à la fois de résilience par rapport à son histoire et aux tragédies qui nous frappent. C'est une façon de dire qu'on est acteur de son histoire parce qu'on est capable de prendre une distance, parfois, qui est donnée par l'humour. Finalement, d'où vient le rire? Le rire, il vient d'une conscience que le texte, ou la blague, ou le récit, ou la phrase, peut dire plus qu'elle ne veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir dire qui est plus grand que son vouloir dire. Il y a ce qu'on pensait qu'elle voulait dire, et il y a ce qu'on peut lui faire dire. Et ce petit décalage de sens, c'est là où souvent le rire se glisse. Le rire se glisse sur le malentendu. En fait, c'est ça qui fait rire, bien souvent. Alors, il y a énormément de blagues juives qui sont construites sur cette idée.
Moi, vous en racontez souvent, d'ailleurs.
Oui, il y en a une. Que... Oui, vous en voulez une?
Ah oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Non, mais il y en a une, voilà, sur ce décalage de sens que je raconte très souvent. C'est l'histoire de deux hommes qui sont devant, c'est pas particulièrement une blague juive d'ailleurs, c'est deux hommes qui sont devant un bain public et il y en a un qui dit à l'autre, t'as pris un bain? Et l'autre lui dit, pourquoi il en manque un? Et vous voyez bien que ce décalage de sens qui nous fait bien comprendre que prendre un bain peut vouloir dire quelque chose et autre chose, c'est exactement le sens de l'exégèse et même du sacré et de la démarche religieuse, de dire que le texte n'a pas fini de parler et que de la même manière que Dieu est plus grand que ce qu'on pourrait en dire, eh ben son texte ou la révélation est plus grande que ce qu'on en a déjà dit. Et ceux qui refusent la grandeur et l'infini du pouvoir dire sont en train de profaner le texte, mais souvent ils le font au nom d'une forme d'orthodoxie religieuse, ce qui est fou. Ouais.
On vous retrouve dans un instant, Delphine Horviller, Patrick Boucheron et Yannick Enel dans votre grand atelier après avoir écouté un nouveau titre du dernier disque de Gaël Faye, Lueur.
Éteignez les lumières, je viens chanter mes pogos sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo. Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent. J'enferme le monde dans mon corps jusqu'à ce que les mots me débordent. Transforme la chair en verbe, la douleur en art, l'ombre en lumière. J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières. Vous finirez seuls et vaincus dans vos délires de sang impur. Et la haine que vos bouches écument n'aura plus prise sur nos vécus. Ronronne l'histoire et elle cale et les cales enchaînées dans bateaux faits d'un bois, faits d'un arbre où l'on pend d'étranges fruits distillés et broyés. Des cadavres empilés, des pelletés de charniers. Regardez les exodes, papillons volent et voguent. Regardez devant l'homme comment Dieu se dérobe, comme il pleure en tornade nos ruines et nos guerres, comme il pleure chaque soir un soleil incendiaire. Je peux plus respirer, leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer. Le réel est violent comme une jungle à Calais, un Congo, océan, tant d'offenses à laver. J'essuie les crachats, j'arrache des murs de France, les sourires banania. Et nos enfants qui viennent seront dignes et debout, debout, dignes, dignes et debout. Je connais les entailles, les encoches de nos cœurs. Si leurs ténèbres m'assaillent, j'irai chanter mes lueurs. Invincible est notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées. Invincible est notre ardeur, éblouira vos sangs dedans. Invincible est notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées. Invincible est notre ardeur, éblouira vos sangs dedans.
Gaël Faye, Lueur. J'ai entre les mains un autre livre de Patrick Boucheron, Yannick Enel, qui vous tient à cœur, qui s'intitule Contre-temps, avec Bruno Alary et Isabelle Courroy, paru au Seuil. C'est un livre accompagné d'un disque.
C'est un livre merveilleux, hein, franchement. C'est un livre sur l'amour dans la langue, sur la langue de l'amour, sur la naissance de l'amour qui a été inventé par la langue à un moment précis du temps, en français, par les troubadours notamment. C'est une méditation sur cette musique intérieure, enfin sur ce qu'on pourrait appeler l'invention de l'amour, en fait, le chant qui s'appelle l'amour.
On va écouter un extrait et puis en parler avec Patrick Boucheron.
On nommait tradition l'alliance du grand âge et de l'éternelle jeunesse. La musique se faisait immémorielle et ardente en inventant sans cesse les moyens de s'emparer joyeusement de son propre héritage. Et voici pourquoi il y eut, de Montserrat à Florence, un Ars Nova. Alors, le pape fulminait contre cette musique nouvelle et sa polyphonie intempestive. Il brise les mélodies à coups de notes courtes, s'indignait-il. Mais trop tard, c'est parti. Les notes se sont envolées, on ne les rattrapera plus. Elles sont devenues des signes qui ne sont plus que des renvois aux choses. Et les choses, elles, ne s'empareront plus de nos âmes, car on saura les saisir au vol.
Qu'est-ce qui vous a passionné dans le fait d'écrire avec des musiciens sur ces airs de troubadour? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces airs de troubadour qui passionnent Patrick Boucheron?
Ce que vient de dire Yannick Enel, c'est-à-dire ce moment à la fois frais, neuf, joyeux, qui ne nous paraît mièvre que parce qu'on en est les filles et les fils. Donc il y eut un jour où quelqu'un, pour la première fois, dit « le ciel est bleu, les oiseaux chantent et je suis heureux ». Et donc ça, cette naissance de l'amour dans la langue des troubadours, c'est tout à fait fascinant parce que c'est le moment où les mots viennent avec la musique. Et puis ensuite, les mots et la musique se séparent. Les mots poétiques deviennent ce que justement Ruteboeuf appelle un dit, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'adresse plus que qu'aux oreilles, mais sans apparat musical, et la musique, elle, se raffine, et c'est justement l'Ars Nova. Voilà. Et par ailleurs, moi, je n'ai pas voulu être le philologue rigoureux de ça, ramenant cette musique à sa prétendue essence médiévale. Non, elle nous vient de loin, mais elle arrive vers nous, et elle arrive vers nous transformée par le temps. Et c'est pourquoi ce que Bruno Alari et Isabelle Courroy font de cette musique, d'une musique ancienne et savante, mais samplée par les ordinateurs, et puis aussi rejouée, réinterprétée par des guitares électriques, ils l'électrisent au sens propre, hein. C'est comme l'Autréamont, il l'électrise pour d'une certaine manière nous rendre sensible, l'écart entre les deux rives du temps.
Ce livre-disque Contre-temps est d'abord un spectacle, une forme de lecture, faut-il dire améliorée, de concert littéraire et poétique. Vous êtes allé à Marseille dans un festival qui s'appelle Oh les beaux jours. Vous testez un peu à la scène avec cette écriture-là et cette musique-là.
Oui, et le texte lui-même, je peux le dire parce que je l'ai jamais dit, et puis que justement on est dans une conversation, donc inévitablement dans une confidence. J'écrivais ce texte dans la solitude et je lisais deux livres. C'est justement le vôtre, Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne. Et j'ai bien peur que dans ce moment de d'orveil, qui est un moment de porosité où l'âme s'ouvre, bâille aux désirs, aux angoisses, etc., certaines de vos phrases se sont d'une certaine manière envolées vers les miennes. Mais j'en lisais un autre qui était Le Lambeau de Philippe Lançon. Mmh. À un moment très angoissant, parce qu'il se trouve que j'avais moi aussi un autre moment écrit avec un ami qui est mort aujourd'hui, Mathieu Riboulet,
sur les attentats de janvier 2015, oui.
Et que je retardais un peu le moment de lire Le Lambeau. Et il y a ce moment, pardon, mais je voulais en parler avec vous, Yannick, il y a ce moment où dans la fin du chapitre qui décrit la tuerie, où Philippe Lançon on le sort de la salle sanglante. On le sort en l'élevant, on le hisse sur une chaise, et il voit des choses, il essaye de ne pas en voir d'autres, et il voit des choses qu'il aurait mieux voulu ne pas voir, et tout ça se fige comme une sorte d'éclat, et c'est, alors là, pour le coup, c'est la vérité qui éclabousse. Il décrit ça, c'est-à-dire il décrit en fait ce point de vue. Ce point de vue qui justement s'élève et où il va prendre pas du tout de la hauteur.
Je rappelle que c'est un journaliste, Philippe Lançon, un écrivain, effectivement, Le Lambeau est un livre très important, et qu'il est un survivant de Charlie Hebdo. Une réaction, Yannick Enel, à ce que vous venez d'entendre de Patrick Boucheron ?
Oui, c'est très beau, cette confluence, si je puis dire, cet emmêlement, cet entrelacement, là aussi, musical, des lectures qui se mettent à faire parler notre être, au fond, et on se rend jamais assez compte de la puissance amoureuse des lectures. Précisément, l'amour, c'est ce dont il est question dans ce livre miraculeux de Patrick Boucheron.
Contre-temps.
Contre-temps. Moi, je suis très touché par chaque fois qu'on essaye de se rendre disponible, disons, à toute une tradition qui est contraire à l'autre tradition occidentale du langage comme perte, du langage comme béance, comme impossibilité à dire. Il y a cette autre tradition qui vient du Moyen-Âge, qui est au contraire liée à une forme de plénitude, à une forme de jouissance de l'être. Et je crois avoir entendu ça dans le livre de Patrick Boucheron, ces retrouvailles heureuses et dansées et chantées, avec un moment de plénitude dont il n'y a pas lieu d'être nostalgique, il est là à tout moment.
Le verbe, Delphine Horviller.
Oui, tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu de Contre-temps, il y avait cette phrase que, je crois, la tradition consiste à s'emparer joyeusement de son propre héritage. Et je crois que ce qui est formidable, quand on s'empare joyeusement, musicalement, ou avec des mots qui sonnent et qui dansent de son héritage, on est conscient que parce qu'on le fait danser, on lui fait un peu violence, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la possibilité de la transmission d'une tradition, c'est la conscience qu'on va faire danser les mots, on va les faire valser, rocker, un peu quelque chose qui fait que, effectivement, il y a un mouvement possible parce que ça secoue.
Voilà, puisque vous parlez de danse et de musique, d'une certaine manière, on va en écouter avec du rock, parce que le rock est tombé dans les oreilles d'un auditeur de France Inter qui s'appelle Yannick Enel, qui dans sa tendre adolescence écoutait Bernard Lenoir, qui lui a donné du goût, notamment le goût des Pixies.
Ah, wow.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Call me devil, call me friend, but call me blackjack cool again. I came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Kate in the time before when she's just Kate. Here in the mountains all alone before the time we call this home. Where is my angel falling? Put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my angel falling? Down at the river bottom. And will she get away? Where is my life for blossom? Is she just playing possum? All the day and night, the morning show, the bloody sight. Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe.
Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Si je vous dis Jean Genet, Yannick Hennel, est-ce que ce poète et ce révolté compte pour vous ?
Oui, moi, pour moi, Jean Genet, c'est avant tout des romans écrits en prison. C'est Miracle de la Rose et Journal du Voleur, en l'occurrence. Pour moi, c'est un voyou poète du Moyen-Âge. Pour moi, il a à voir avec Chrétien de Troyes, avec les troubadours, avec Rimbaud.
Vous pensez que Boucheron écrira sur lui un jour ?
Ah, mais je suis sûr.
La réponse en direct de l'historien.
J'ai écrit sur Sartre écrivant sur Genet.
Ah oui, c'est vrai, il a écrit
sur lui. Et faisant écran. Une de mes expériences de jeunesse, qui était en fait traumatisante, c'est que j'avais acheté, quand j'étais étudiant, Saint-Genet, comédien et martyr de Sartre, qui est un livre magnifique et enfin violemment généreux, c'est-à-dire qui fait violence en fait. Et dans sa première édition, on fait déjà les œuvres complètes de chez Gallimard de Genet. Et le tome 1 des œuvres complètes de Jean Genet, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Sartre.
Ah oui.
Et c'est parce que c'est une préface qui a mal tourné. Je me suis dit, mais c'est ça être un intellectuel. C'est parler pour les autres à leur place et contre eux. Et je trouvais ça effrayant.
C'est vrai que ça, on raconte que ça a castré littérairement Jean Genet, qui n'a plus pendant pas mal d'années écrit, parce que Sartre avait mis ce monument écrasant à la place même du vide nécessaire à l'écriture.
650 pages. Enfin, ouais. C'est un livre, voilà, incroyablement intelligent. Mais qu'est-ce qu'on fait quand Sartre a écrit sur vous ?
Et il s'en est sorti.
Difficilement, quand même. Hein.
On va l'écouter, Genet, parler de sa biographie, comme vous en parlez finalement dans votre premier roman, Yannick Hennel, à propos de ce prytané militaire, Les Petits Soldats. Voici Jean Genet qui s'exprime sur ses origines.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Enfin, par elles dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs. Elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, et c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes.
Oh, que c'est beau cette déclaration de Jean Genet, Yannick Enel, vous sent touché. Vous devez être ému par cette éclosion de la littérature décrite par Jean Genet.
Oh, c'est extraordinaire, déjà d'une part la voix. Et il y a quelque chose de séminal aussi dans la manière qu'il a de parler de sa propre origine. Je pense que la littérature a ceci de particulier, que c'est une matière sans origine. Précisément la littérature française, encore plus que d'autres. Et là, on l'entend bien, il dit que ça vient des marécages, des crocodiles, ça vient d'une fleur, du pollen, des genêts. Il prend son nom depuis le plus bas et le plus beau, une fleur.
Et il s'élève.
Et Plantagenet aussi. Quand il est un jour incarcéré à Fontevraud, je crois, on lui demande son nom, les matons lui disent « ton nom ». Il dit « Genet ». Le maton lui dit « Plantagenet ». Donc c'est un roi, il est déjà d'entrée de jeu distingué comme un roi.
Delphine Orviller.
Oui, moi je trouve ça très troublant, effectivement, cette voix qu'on peut dater, c'est-à-dire que la résonance de ces mots fait qu'on la date historiquement. Et en l'écoutant, je me demandais bêtement si dans 50 ans, quelqu'un réécoutant l'archive de notre émission pourrait dire « on voit bien que c'était les années 2020 oui. ». Simplement à notre façon de parler, à notre intonation. C'est troublant à quel point même notre voix, pas juste nos mots,
2021.
Sont historicisés en fait. Oui.
Et puis on dira aussi, ils avaient sans doute des masques. Il avait dû se passer quelque chose. Patrick Bouffran.
C'était terriblement 2021, notre conversation.
Bien, merci Patrick Boucheron d'être venu partager votre expérience de la poésie, de la littérature et des romans de Yannick Enel avec nous. Merci Delphine Orviller. On retrouvera tous vos ouvrages sur la page du Grand Atelier sur franceinter.fr. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Juste après les infos, on reçoit un metteur en scène, Arthur Noziciel, et un musicien, Yann Robin. Et on va chez Yannick Enel, dans l'Est parisien. Deuxième heure du grand atelier de l'écrivain Yannick Enel, l'auteur de Cercle, de Yann Karski, de Tiens ferme ta couronne, un proche de Philippe Solers, l'animateur d'une revue, Ligne de risque. Qu'est-ce que vous publiez d'ailleurs dans cette revue, Yannick Enel ?
Dans Ligne de risque, ce sont des recherches, je dirais, entre philosophie et littérature, sur toutes sortes de choses qui ont à voir avec la vérité, le questionnement sur la vérité dont nous parlions tout à l'heure avec Patrick Boucheron et Delphine Orviller. Mais aussi des résurrections, si je puis dire, d'écrivains méconnus ou de penseurs méconnus comme Rabbi Nachman de Breslav. Voilà, c'est un lieu un peu expérimental. Ça relève du fanzine, comme on disait au XXe siècle.
Oui.
Enfin, ça n'a pas de temporalité, d'actualité, j'aime ça au fond.
Oui, vous aimez beaucoup de choses, vous êtes quelqu'un d'éclectique, on a l'occasion de s'en rendre compte depuis une heure et on va aussi s'en apercevoir dans cette deuxième heure parce que vous aimez écrire des récits, des essais, des romans. C'est sans doute le roman maintenant qui a pris le plus de place dans votre vie, mais aussi des chroniques comme celle de Charlie Hebdo. Tout ce qui est lié à l'écrit vous concerne ?
J'ai une fascination pour le papier blanc. Je crois que la plupart des rêves que je fais, enfin ceux dont je me souviens, tournent autour de pages blanches qui se remplissent. Alors je dois être assez fou de littérature.
Quel appétit !
Et c'est pour moi, dès l'origine, on parlait tout à l'heure des ritournelles d'enfance, mais il y a aussi ça, l'amour pour la papeterie, vous savez, pour les carnets, les cahiers. J'en ai partout, il faut absolument que je les remplisse. C'est presque érogène, vous voyez.
Ouais.
Et donc, peu importe le genre...
Coucher des mots sur le papier.
Voilà. Ouais. Donc, peu importe le genre, roman, récit, poème, théâtre, chronique, l'écriture, si j'en avais la force physique, elle serait continuelle.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Vos invités de la deuxième partie, un metteur en scène qui dirige le Théâtre National de Bretagne à Rennes, mais qui n'est pas breton aujourd'hui, il se trouve en Islande. Bonjour Arthur Nosiciel.
Bonjour.
Mais que diable faites-vous en Islande?
Je suis en train de monter le film que nous avons tourné de ma dernière création qui s'appelle « Mes frères » et que nous n'avons pas pu jouer au TNB à Rennes, puisque les théâtres ont dû fermer au moment où on aurait dû le jouer. Et donc on a fait le film et mon réalisateur et monteur habitent en Islande, donc je les rejoins pour être dans le montage du film en ce moment.
« Mes frères », c'est un texte écrit pour vous par Pascal Rambert.
Oui, absolument, oui.
Avec vous et avec Yannick Enel et avec nous, il y a un compositeur de musique contemporaine, Yann Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez depuis la Villa Médicis à Rome, pour Yannick Enel et donc Yann Robin, c'était 2009-2010 à peu près?
C'était même avant, c'était 2008. Yann était en composition musicale et moi en littérature.
Et alors, vous aviez des choses à vous dire tout de suite, immédiatement, ça s'est bien passé tout de suite, il y a eu un début de dialogue?
C'est de ça dont il s'agit, effectivement, depuis 10 ans. Enfin, on est devenus amis avec un projet fou ensemble, me semble-t-il. Enfin, Yann va en parler, c'est celui de faire un opéra.
Oui, mais on a mis pas mal de temps quand même à faire un opéra parce qu'il a fallu trouver par quel chemin arriver à cet opéra. On se sentait un petit peu emprisonné de s'emparer en quelque sorte d'un univers déjà préexistant. Et en fait, le jour où j'ai dit à Yannick, mais en fait, tu es un super écrivain aussi. Invente quelque chose, invente-nous quelque chose. Et là, il y a une espèce de libération. Et Yannick a écrit le livret du Papillon Noir, qui est devenu un opéra.
Qui est devenu un opéra d'un genre particulier. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Je voudrais qu'on évoque Bachung. Alors, on passe peut-être du coq à l'âne, mais pas tant que ça, parce que Bachung a mis en musique les mots de grands auteurs. Je sais qu'il a une place dans votre cœur, Yannick Enel, et entre vos oreilles.
Mais effectivement, le Cantique des Cantiques, qu'il chante avec Chloé Mons, dans la traduction d'Olivier Cadiot, est une chose qui m'est arrivée d'écouter à certaines périodes, ces dernières années, qui m'est arrivée d'écouter tous les jours. Parce que d'une part, le Cantique des Cantiques, c'est l'absolu de la poésie pour moi, c'est-à-dire la rencontre entre le spirituel et l'érotisme, incarné dans une langue. Et puis Bachung, c'est un troubadour rock. C'est quelqu'un qui a réussi, pour moi, à déringardiser le fait de chanter en français. Je crois qu'il y en a deux, comme ça en français, Étienne Dao, qui a réussi à faire que la pop, ça puisse se dire en français. J'ai une admiration sans borne pour Étienne Dao. D'ailleurs, je suis rennais. Vous voyez, je le voyais à Rennes quand j'étais étudiant, comme ça, le soir, dans des cafés, je le croisais avec admiration, enfin, j'osais pas l'aborder. Et puis, il y a Bachung qui a recréé la poésie dans le rock français. Et voilà, la musique est une de mes passions, mais en amateur, je dirais. Je sais pas déchiffrer la musique, je sais pas jouer du piano. Et donc, quand j'ai rencontré Yann Robin à la Villa Médicis, ça a été une approche effectivement à la fois timide et admirative. Je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour inventer de la musique. Enfin, c'est quoi cette solitude avec un piano ou rien? Enfin, et d'ailleurs, comment fais-tu? Enfin,
alors,
je repose la question.
On va la jouer un peu suspense. On aura la réponse de Yann Robin, peut-être, après avoir écouté Bachung.
Très bien.
J'ai écouté pas mal de choses pour vous et en me faisant plaisir, j'ai choisi Madame Rêve.
Ah, c'est bien, ouais.
Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuel. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel, au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin. Libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
Yann Robin, le musicien, le compositeur, la musique contemporaine, c'est entre autres Yann Robin. Est-ce qu'elle vous inspire, cette musique de Madame Rêve de Bajoum, qui colle si bien au texte? On est parti là dans une rêverie, dans une forme d'hypnose.
En fait, tout peut m'inspirer, en quelque sorte, du moment où je suis touché par ce que j'entends, ou par ce que je vois, ou même par ce que je goûte, par ce que je touche. Oui, c'est une musique, de toute façon, qui vous porte et qui vous installe sur une espèce de lévitation. Donc oui. En quelque sorte, je peux me laisser porter par ce chanteur, par sa musique, par son univers.
J'ai toute la pile des bouquins de Yannick Enel. Pas tout, parce que il y aurait pas assez de place en studio. Mais j'ai par exemple ce bouquin paru en folio d'ailleurs, qui date de 2007, si ma mémoire est bonne, c'est Cercle.
Ah oui.
C'est ce Parisien qui sort de chez lui, en fait. Hein. Il ouvre la porte, il va commencer à marcher, parce qu'on marche beaucoup dans les romans d'Yannick Enel, et puis il se passe toujours des rencontres, forcément. C'est un auteur qui aime rencontrer les autres et le monde, et il va aller en Europe, il va approcher Berlin, il va aller jusqu'à Varsovie, il va chercher les traces du ghetto de Varsovie, entre autres choses. Il va aussi vivre des expériences érotiques, toujours importantes chez Yannick Enel. Est-ce qu'un Cercle de Enel peut donner de la musique, Yann Robin?
Déjà, Cercle, moi j'ai une relation très particulière avec ce livre-là. Le jour où j'ai rencontré Yannick, il m'a remis ça dans les mains. C'était daté du 2 avril, je crois, 2009. Je ne sais pas si je pourrais faire de la musique à partir de Cercle ou pas, mais si Yannick accepte d'adapter, faire un livret, pourquoi pas. Mais oui, c'est un livre qui m'a passionné. Je l'ai lu en quelques nuits à la villa, assez rapidement, et je suis totalement tombé amoureux de l'univers de Yannick.
Que vous décririez comment, Yann Robin?
L'univers de Yannick, il n'y a pas vraiment de dichotomie entre l'artiste et ce que je peux lire dans ses livres. Je le vois en permanence, en fait. C'est-à-dire, quand je lis ses livres, quand je lis ses phrases, je vois Yannick. Je vois Yannick aussi bien comme protagoniste, mais aussi je l'entends lire ses phrases. C'est un... En fait, oui, son univers me touche énormément.
Je vous propose d'aller chez Yannick Enel. On retrouvera dans un instant Arthur Noziciel qui se trouve en Islande. On va aller chez vous, Yannick Enel, près de Paris, à Montreuil précisément. À la mi-décembre l'année dernière, vous m'avez reçu dans votre bureau. Il était 20h. Vous en étiez au 53e jour du procès des attentats de 2015. Procès, on l'a dit, que vous suiviez comme chroniqueur de Charlie Hebdo. On a lu dans Charlie, par exemple, votre portrait d'Amedy Coulibaly qui a pris en otage et tué des clients d'un hyper cachère à Vincennes, le portrait d'une employée qui a pris soin des clients. Ce soir-là, en vous rencontrant, j'ai trouvé un homme épuisé qui se levait depuis des jours et des jours à 4h du matin pour écrire jusqu'à 7h avant de retourner au tribunal, mais aussi un écrivain heureux de faire son devoir de témoin. Yannick Enel, quand je suis arrivé, il y avait de la musique, il y avait du piano dans votre bureau.
Oui, c'est vrai. C'était Glenn Gould, c'est ce que je mets en continu. Je crois que c'était les suites françaises. Il se trouve qu'en ce moment, je me lève très très tôt. Je me lève à 4h30 ou 5h pour écrire une chronique concernant le procès des attentats de janvier 2015 pour Charlie Hebdo, tous les jours. Et la première chose que je fais, c'est d'appuyer sur mon ordinateur, sur la touche musique. Enfin, et il y a Glenn Gould qui défile.
Et qui vous dit « Yannick, réveille-toi en douceur ».
Ça me dit avant tout, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose de plus enveloppant, de plus grand, je dirais. Si j'avais la chance de croire absolument en Dieu, je pourrais dire ce genre de choses. Ouais. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'aime.
Et puis les heures passent et vous arrivez au tribunal, vous venez de parler de Dieu, est-ce que là vous voyez le diable ?
Je le vois pas en personne, mais je vois le démoniaque, oui, je vois le démoniaque à l'œuvre. Je pense que les auteurs de ces attentats, et en particulier un certain Coulibaly, étaient tout à fait traversés par du démoniaque. Enfin, je crois n'avoir jamais entendu des choses aussi puissantes, aussi belles aussi, que les témoignages de Zari Siboni, donc la caissière de l'hypercachère.
Est-ce que c'est une sainte, elle, si on va vers ce domaine-là?
Alors, si on est dans l'ordre du spirituel, oui, et c'est comme ça que je l'ai décrit dans la chronique de ce jour-là, qui m'a pris, je me souviens, 3 à 4 heures à écrire. Enfin, j'ai essayé de restituer son âme, parce que je crois que c'est ça, la littérature.
Elle a protégé des gens, et elle a eu beaucoup de courage face à l'agresseur.
En faisant, si je puis dire, rempart entre Coulibaly et les autres otages, elle a calmé ce monstre, au fond, qui a voulu d'ailleurs l'assassiner aussi. Et c'est ça, un tribunal, enfin en tous les cas une cour d'assises, et l'expérience métaphysique, spirituelle et humaine, c'est d'entendre des gens comme ça, ou le témoignage de Coco ou de Sigolène Vinzon. Et là, je dois dire que...
Ce sont d'une certaine manière des survivantes de Charlie Hebdo.
C'est exactement ça, et d'ailleurs l'une des grandes leçons, je dirais, de ce procès, ça aura été que les victimes en ont marre d'être considérées comme des victimes et de se considérer comme victimes. Et seul le grand courage, ça a été qu'elles nous disent, et Rhys aussi l'a dit, nous on est des survivants, on n'est pas des victimes. La victimologie, basta. Et venant d'eux, c'est quand même extraordinaire.
Je suis dans l'atelier, d'une certaine manière, de l'écrivain Yannick Enel. Qu'est-ce que je vois? Je trouve que votre bureau, très beau, en bois, est minimaliste. Il est tout petit.
C'est vrai, oui. Bon, j'ai beaucoup déménagé. Là, on est dans une maison, en banlieue parisienne, à l'Est, que j'ai achetée avec ma femme il y a 2 ans maintenant. C'est la première fois que j'ai une vraie pièce avec mes livres. Avant, j'ai toujours écrit dans les cafés. Et notamment dans un café qui avait ma prédilection, tous les matins j'y allais après avoir amené ma fille à l'école, c'était aux Petits Oignons dans le 20e. J'ai écrit plusieurs livres sur la banquette, je pense qu'ils pourront finir par mettre une plaque en fait.
Ici est né Yann Karski, Cercle.
Absolument, voilà, c'est pas moi dont il s'agit, effectivement vous l'avez bien dit, ce sont des livres au fond, presque sans moi à la fin.
Et en jetant très rapidement d'une façon indiscrète un coup d'œil sur votre bibliothèque, parce qu'il y a ce petit bureau, il y a ces cahiers Claire Fontaine de toutes les couleurs, il y a surtout des bouquins. Par exemple, là, il y a un livre sur Picasso. Je pense au Enel qui aime énormément l'histoire de l'art et la peinture, qui peut écrire sur Caravage, par exemple. On voit aussi Georges Bataille, par exemple, là, à vos pieds. Bataille qui fait partie de vos lectures nécessaires, indispensables.
Bataille, J'ai les 12 volumes des œuvres complètes et je peux avouer que j'ai tout lu et tout annoté. J'ai même passé une année à Florence, en Italie, quand j'y habitais, à lire consciencieusement les 12 tomes, comme un fou, en fait.
Et vous faites ça avec tous les écrivains, c'est votre côté agrégé de lettres.
C'est vrai, oui, je renie pas mon côté professeur, enfin je le suis plus depuis longtemps, mais je crois que c'est aussi surtout library cormorant, je sais plus comment on disait Coleridge, dévoreur de livres en fait, c'est je suis boulimique. Mais Bataille, c'est l'écrivain dont je me sens le plus proche. C'est moins pour le côté sulfureux, l'érotisme, tout ça, dont on peut dire aussi que c'est toujours un peu dépassé d'ailleurs. L'érotisme des autres semble toujours dépassé pour nous. Mais c'est son hétérogénéité. J'aime bien que cet écrivain ne soit ni un romancier, ni un essayiste, ni un philosophe, ni un poète. Il est tout. Mmh. Et puis c'est quelqu'un qui s'est intéressé tout autant au Marquis de Sade qu'à Lascaux. Et moi j'aime ça. Vous voyez, je suis capable de passer 3 mois dans un procès terrible. Et aussi d'écrire effectivement sur le Caravage, où là je suis en train de prendre des notes pour mon prochain livre sur Bacon, parce que j'ai passé une nuit tout seul dans l'expo Bacon il y a un an, j'ai eu cette chance, et je vais raconter cette nuit avec
le tableau de
Bacon. À Beaubourg, oui. Mmh. J'aime bien cet éclectisme. De la même manière, j'aime habiter en banlieue, dans un quartier musulman, avec, faut le dire, un prolétariat ici.
Et être l'ami de Solers.
Et être l'ami de Solers, voilà. J'ai pas vraiment d'appartenance, peut-être parce que j'ai beaucoup vécu en Afrique. Mon père était militaire, on a changé tout le temps d'adresse. Et ce nomadisme m'a conduit à m'identifier à rien de territorial. Mais c'est la littérature, je me sens dans la littérature. Enfin, la littérature est presque mon dieu, plutôt ma déesse. Les déesses grecques, c'est merveilleux. Il faudrait inventer la déesse de la nuance. Et je pense que c'est elle qui régnerait. Vous voyez, je l'improvise comme ça. La déesse de la nuance, c'est elle qui régnerait, ou qui règne, ou qui régnera sur la littérature.
En même temps, vous n'êtes pas quelqu'un de nuancé, vous n'êtes pas un écrivain nuancé.
Oui, vous avez raison. Au fond, ce qui me plaît, ce sont les choses radicales, enfin l'absolu. C'est vrai que d'être à la fois Charlie Hebdo, investi totalement dans l'histoire de l'art, m'occupant aussi de rubriques de cinéma parfois, enfin, fait que... Ne serait-ce qu'avec Charlie Hebdo, c'est vrai que je m'engage, enfin, c'est que je le veuille ou non, enfin... Mais je crois que le pire, au fond, pour quelqu'un aujourd'hui, et pas seulement pour les écrivains, ce serait justement de se confiner, je le dis avec provocation, mais ce serait d'être confiné en soi-même. La vieille tour d'ivoire, comme on disait pour les poètes, ça me semble tellement dépassé, tellement ridicule. Le fait de réfléchir, de penser, d'aimer, et ces 3 mots coïncident dans l'acte d'écrire, enfin de... Ben, tout ça implique d'être absolument à l'écoute, enfin de sortir de chez soi à tous les sens du terme, enfin d'aller même là où on n'est pas bien, là où on n'a pas ses marques. Et c'est vrai qu'en un sens, à la fois l'expérience de ce procès m'a précipité dans le face-à-face avec une violence qui malheureusement est aussi le cœur de la société, mais aussi beaucoup d'autres expériences. Je vous disais que je me suis laissé avec joie, hein, avec une joie folle, enfermé pendant une nuit à Beaubourg. Bon, c'est un plaisir, mais il se trouve que j'ai très très peur, depuis que je suis petit, d'un tableau de Bacon en particulier. Donc je me suis laissé enfermer précisément à cause de tous mes cauchemars, pour affronter ce cauchemar.
Et ça va mieux ?
Bah écoutez, je crois l'avoir dompté, ce tableau. Enfin, ou alors il a fait la paix avec moi, je sais pas.
Puis vous êtes plus un enfant.
Eh, qui sait ?
Les gens trouvent les tableaux souvent violents, mais il ne faut pas jamais oublier qu'un tableau ne peut pas être aussi violent que la vie elle-même. Et comme je sais, dans un sens, dans mon sens, être réaliste, bien sûr, sont violents. Alors, c'est curieux que les gens croient que mes tableaux soient violents. Parce que la vie est beaucoup plus violente.
Est-ce que la vie, comme le disait Bacon, est plus violente que les tableaux de Bacon ?
C'est indéniable. Je crois maintenant, après avoir passé 10 heures tout seul face au tableau de Bacon, que chez Bacon, il y a une douceur, je dirais même une tendresse, un amour, au fond, un amour compliqué, un amour terrible, un amour lui-même violent, mais qui n'est rien par rapport à la société, à son déferlement mortifère.
Mmh. Yannick Enel, vous pouvez nous décrire ce tableau qui vous faisait peur, enfant ?
Et encore aujourd'hui, peut-être.
C'est un triptyque dont vous voyez, j'ai oublié le nom, alors que je suis censé être presque un spécialiste.
Oui, mais dites-nous ce qu'on voit, nous, spectateurs.
C'est un triptyque rouge avec trois états d'une figure monstrueuse qui se dresse, qui relève à la fois du dragon, en fait, et du cri d'un prisonnier qu'on bâillonne. On voit une bouche dentée.
Trois études pour une crucifixion, peut-être.
Ça doit être ça, je suppose. Mais vous voyez, je veux pas le savoir.
Excusez-moi.
non, je plaisante. Mais j'ai été pendant des heures, donc au bout du couloir, j'osais pas m'avancer. Ça déclenche quelque chose chez moi, cet immense tableau, qui est l'un des premiers de Bacon, d'ailleurs, qui est effectivement ce qu'il reste d'une crucifixion, d'un supplice. Ça déclenche chez moi quelque chose qui relève de cette zone très intime, qui est celle du cauchemar, au fond. Des pulsions non résolues. Et c'est génial de voir face à soi, c'est mieux que dans une psychanalyse fracassante, de voir face à soi figurer le point exact où se trouve l'horreur. Alors je sais qu'elle est maintenant encadrée par Bacon, il a fait ce travail pour moi, et du coup j'ai la sensation que l'horreur n'existe plus en dehors de ce tableau, puisque c'est lui qui la contient.
Mais je pense au procès auquel vous avez assisté pendant des mois, 3 mois. Là aussi vous étiez face à l'insoutenable, là aussi vous étiez face à une violence que vous auriez pu repousser, refuser, en n'y allant pas, en ne couvrant pas ces événements.
Ah, je l'ai fait par amitié. Je l'ai fait parce que les gens de Charlie Hebdo, que je connais maintenant depuis 5 ans, puisqu'ils ont fait appel à moi après les attentats, ne pouvaient pas eux-mêmes écrire quelque chose sur leur propre procès, si je puis dire, ou sur le procès qui les rédime, comme on dit, et qui les sauve. Mais j'ai vécu ça avec la responsabilité d'écrire pour eux, donc j'écrivais pas pour moi. Et ça me délivrait parce que entre les scènes de crime et la société, j'ai mis de l'écriture tous les jours, ce qui fait que ça m'a empêché non pas d'être ému, j'étais ému en permanence, mais ça m'a empêché de souffrir, disons.
L'alibi du stylo.
Plus que l'alibi, la protection. Tout à l'heure, Delphine Horviller parlait de ça, de quelque chose qui a lieu entre le divin et les hommes, entre le divin et les humains, qui serait de l'ordre de la protection flottante. On appelait ça les anges avant, même si c'est un peu romantique. L'écriture se place étrangement, spirituellement, entre les vivants et les morts. Je crois que c'est quelque chose qui a lieu aussi dans le théâtre. C'est ça qui m'a attiré chez quelqu'un comme Arthur Noziciel, que je suis heureux d'avoir convié aujourd'hui à cette émission, et aussi dans la musique de Yann Robin, qui est une musique spectrale au bon sens du terme. C'est-à-dire, elle fait revenir des présences qu'on croit mortes.
Tout ce que vous aimez dans la littérature, hein, vous faites revenir l'histoire la plupart du temps. Allez, j'appelle en Islande Arthur Noziciel. Arthur Noziciel, c'est pas étonnant de vous savoir là en train de monter un film en Islande, parce que l'Islande, d'une part, vous avez déjà travaillé là-bas, je crois, avec un texte de Marie Darieusek, la romancière, et puis vous pratiquez, en dehors de votre Théâtre National de Bretagne à Rennes, une forme de nomadisme. On vous a déjà vu travailler aux États-Unis souvent. Vous êtes allé en Norvège, vous êtes allé en Irlande. Vous avez besoin de l'ailleurs, vous avez besoin de l'étranger comme metteur en scène?
Oui, c'était même inscrit, je pense, dans le fait de faire du théâtre. Et c'est à travers des rencontres, à travers des langues, que petit à petit, quelque chose s'est construit dans le temps, en fait. Ce qui me rend très mélancolique, évidemment, aujourd'hui. Puisque depuis presque un an, ça m'est impossible de voir la plupart des gens avec qui j'ai aimé travailler, avec qui j'aime travailler, avec qui j'aimerais continuer à travailler, et qu'on est tous séparés, que des projets ont été annulés. Enfin, je me sens presque plus confiné comme ça à l'intérieur des frontières que finalement quand je l'étais chez moi ou dans les petites cellules de Zoom.
J'aimerais que vous nous disiez qui est pour vous Yannick Enel. La question est un peu large, un peu vaste, mais le Yannick Enel d'Arthur Noziciel, quel est-il?
Bah, Yannick, je l'ai d'abord connu comme écrivain, en fait. C'est d'abord une langue, et puis et la musique de cette langue, et puis l'imaginaire dans lequel très vite cette écriture a su m'entraîner. Et puis il y a une brève rencontre où Yannick, je crois, lisait un de ses textes, et Marie Darieusek aussi. Et puis c'est le travail ensuite sur Yann Karski qui m'a fait mieux rencontrer Yannick. Au-delà du texte, c'était les conversations qu'on a pu avoir, et puis l'amitié qui s'est imposée comme ça dans le temps, lentement mais sûrement, quoi. Et maintenant, Yannick est quelqu'un qui fait absolument partie d'un paysage amical, affectif, sensible, intellectuel. Enfin, je peux pas envisager ma vie sans, sans qu'il soit là, sans qu'il écrive des livres, sans qu'on échange des messages de temps en temps, sans qu'on puisse se voir. Mais ce qui le décrit bien, c'est ce qu'il vient de raconter sur son travail avec Charlie Hebdo, que je trouve vertigineux. Et l'émotion que j'ai eue à lire tout ça, je l'ai retrouvée juste là, en entendant Yannick en parler, de cet endroit terrifiant, hein, de ce triangle des Bermudes où ce chaudron dans lequel s'agite à la fois la plus grande violence, la folie, la souffrance, la douleur, et puis aussi la consolation, et puis aussi comment redéfinir en fait ce qu'est être humain, et de pouvoir passer comme il l'a fait autant de temps, jour et nuit, être traversé par tout ce qu'il a pu et dû entendre et voir pendant cette période. Moi, ça me semble surhumain. Mais d'arriver ensuite à de cette matière noire, arriver à produire de l'écriture comme il l'a fait, je trouve ça incroyable.
Ce dernier mot était dans la chronique de Charlie Hebdo. Nous attendions la vérité et nous avons le malheur pour tous, victimes, famille, accusés. Yannick Hennel.
Mais ce que vient de dire Arthur, c'est la description d'une scène, pour moi, de théâtre, qui est le théâtre du monde. Enfin, c'est depuis Shakespeare et bien avant, c'est ce qui a lieu. Enfin, cette violence à laquelle on est confronté et la catharsis qui, qu'on le veuille ou non, agit. Moi, quand j'ai vu la première fois, sans connaître Arthur Nosiciel, quand j'ai vu une pièce qu'il avait mise en scène qui s'appelle Ordette, La Parole, dont on connaît la version cinématographique de Dreyer, j'ai eu la confirmation, ça m'a aidé dans la vie, parce que j'ai eu la confirmation que cet endroit vers lequel je suis attiré, et le procès c'était ça aussi, c'est-à-dire un endroit qui n'existe sur aucune carte, mais où les vivants et les morts se rencontrent, J'ai eu la confirmation qu'on pouvait lui donner une forme. Et Arthur Nosiciel avait trouvé un précipité chimique d'une forme qui est l'une des siennes, il n'en a pas qu'une seule, c'est pas une formule, une forme. C'est une chorégraphie, enfin, faire que les corps s'auto-ritualisent par leur rapport, voilà, devant tout le monde, chaque soir, enfin, en public. Et je me suis dit, courage, je vais essayer de, moi aussi, de mon côté, de faire ça sur la page blanche, enfin, tout seul et avec tout le monde, dans la littérature. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble, je suppose, enfin, pour Yann Karski, qui parle de ça, au fond.
Mais c'est vrai que dans votre littérature, Yannick Hennel, on trouve une large place faite aux oublis de l'histoire. Vous avez écrit sur le ghetto de Varsovie, vous avez écrit sur Drancy, aussi un livre avec une photographe, pour dire il n'y a plus rien du camp de Drancy, hein, où les Juifs arrivaient et étaient ensuite conduits dans les camps et exterminés. Il n'y a plus de traces, et nous, auteurs, nous sommes là pour laisser des traces et faire revivre ces oublis de l'histoire. Vous considérez un peu votre travail de metteur en scène comme ça, vous aussi, Arthur Nosiciel? Le théâtre a à voir avec les oublis de l'histoire?
Ah oui, oui. À la lecture de Yann Karski, j'ai au-delà du sujet et au-delà du dispositif magnifique que proposait Yannick dans les trois parties du livre, il y avait l'intuition de lire un frère d'armes, en fait, et de quelqu'un qui... Il dit que ça lui a donné de la force. Moi aussi, le lire me donnait de la force, puisque il mettait des mots à un endroit qui pour moi était difficile à nommer, mais lui me donnait un langage que ensuite peut-être la scène allait pouvoir ensuite faire entendre. Et c'est ce que je dis souvent aux acteurs quand on travaille. Ils jouent pas des personnages, mais ils viennent témoigner. Ils viennent témoigner d'histoires qui ne sont pas les leurs et qui ont eu lieu avant les leurs.
Témoigner, voilà un mot aussi important chez Yannick Hennel. Hein. Vous êtes un témoin de l'histoire avec un grand H et de petites histoires qui forment l'histoire. Le mot témoin, et vous l'étiez aussi à Charlie Hebdo, est essentiel dans votre conception de votre métier d'écrivain.
Je souscris absolument à ce que vient de dire Arthur, mais moi je me considère, alors plus modestement, comme le témoin du témoin. Vous voyez, c'est une histoire à l'infini. Au fond, l'histoire c'est ça, c'est un passage de relais à travers le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne pour le témoin? Est-ce qu'il y a personne qui témoigne pour le témoin? Et ce serait c'est l'autre nom de la catastrophe. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un innommé et qu'on doit sans cesse à qui on doit sans cesse donner un nom nouveau? Chaque spectacle, chaque livre, chaque parole, au fond, redonne un nom à cet innommé-là qui peut-être nous... Je ne sais pas si ça nous fait avancer, si ça nous fait penser, mais en tous les cas, ça nous fait mieux aimer, en fait.
On parlait de Yann Karski, il faut juste préciser que Yann Karski est un résistant polonais qui a existé. Hein. Vous êtes parti d'une histoire très vraie. Et cet homme a pu rentrer le premier dans le ghetto de Varsovie, puis témoigner ou faire en sorte que les Occidentaux prennent conscience de l'abomination qui était en cours et qui n'a pas forcément été entendue. En lisant Yann Karski, on ne pense pas forcément au théâtre. Arthur Nosiciel, lui, y a pensé. Comment l'idée d'en faire un spectacle, comment c'est venu cette idée que ça pouvait être en scène sur un plateau devant des spectateurs, Arthur Nosiciel?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en terminant le livre, c'est une image, en fait, plus qu'une idée. J'ai fermé le livre et j'ai presque halluciné, ou en tout cas j'aurais aimé halluciner une présence qui m'aurait dit « Bonjour, je suis Yann Karski ». Comme si la capacité d'Yannick avec l'écriture à faire revenir et ressusciter avait créé cet hologramme. Je dirais que ce qui était imposé, c'est une image et la nécessité, en tout cas, de donner corps maintenant à ce livre et que cette parole, cette impossibilité, cet innommable puisse tenter de trouver son existence dans notre réel aujourd'hui. Et donc c'est pas l'idée, c'est une nécessité que le livre a appelé. Et puis ensuite, évidemment, la réflexion arrive et rencontre d'autres choses. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il y avait effectivement une résonance très intime avec une histoire familiale et la possibilité.
Vous avez perdu des aïeux durant la déportation, hein?
Oui, et puis connu d'autres surtout, d'autres qui sont revenus et donc qui ont été dans une grande liberté de parole. C'est-à-dire que cette idée qu'on était dans l'indicible, moi je ne la connais pas parce que j'étais avec des gens, grands-parents, oncles, etc., qui étaient absolument dans le dicible et qui n'ont fait aucun effort pour me protéger de ce que j'aurais pu entendre et de ce qu'ils ont pu raconter. Et peut-être que la place de témoin dans laquelle est Yannick, la place de témoin dans laquelle est Yann Karski, rendait quelque chose possible, puisque à mon tour, je pouvais être dans un endroit qui était plus un endroit de délégation. Et cet endroit de délégation, à travers cette chaîne de témoins, rendait possible cette transmission qui n'avait pas eu lieu à l'époque.
Arthur Nosiciel est dans le grand atelier de Yannick Enel en compagnie du compositeur Yann Robin. On vous retrouve, messieurs, après la dernière chanson de Paul McCartney, « Find My Way ».
Because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these. Because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh
Voilà Paul McCartney qui va faire plaisir au fils de Yann Robin. Je ne sais pas si vous avez un seul enfant, mais en tout cas, vous avez un fils de 9 ans qui est un fan absolu de McCartney.
Ah, il est complètement fan des Beatles et de Paul McCartney, oui, Joseph, oui.
Yannick Enel, vous posez la question tout à l'heure, Yann Robin, de savoir comment on compose. Je ne sais pas si vous avez eu la réponse, d'ailleurs, avec les propos tenus et les réponses à mes questions de Yann Robin, Yannick Enel. Est-ce que c'est assez complet, le panorama de la composition chez Yann Robin, dans ce que vous avez entendu?
Je me suis approché peu à peu de ce mystère en étant l'ami de Yann Robin, en travaillant un peu avec lui, en allant dans son atelier, mais ça demeure encore quelque chose de complètement abstrait pour moi.
Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on part de ces sensations qui peuvent être de tous les domaines. Hein. On parlait d'un bon plat qui peut donner des notes. C'est un peu caricatural, mais comment vous prolongeriez la réponse, alors, Yann Robin ?
Non, pour aller un petit peu plus loin, au-delà de composer, moi, j'emploierais plutôt le mot créer. Qu'est-ce que c'est cette chose-là que l'on va inventer, que l'on extrait des méandres de notre imagination, qui part d'espèce d'infini. En fait, on plonge les mains en quelque sorte dans l'infini et on en extrait une créature. J'aime ce mot créature qui n'existait pas avant. Donc moi, cette idée de créer, je crois qu'on a tous la capacité d'inventer, de créer des choses. L'enfant l'a peut-être encore plus que nous, mais au fur et à mesure que le temps avance, que l'on devient adulte, peut-être que cette chose-là est peu à peu annihilée. Donc tout à l'heure, vous posiez la question à Yannick, s'il se considère encore comme un enfant. Moi, j'ai envie de rester comme un enfant, émerveillé face aux choses que je vois et que j'imagine. Et je crois qu'on a, cette possibilité-là de Yannick, moi-même et autres créateurs, d'inventer des choses, mais à travers des médiums tout à fait différents. Yannick, c'est la littérature, c'est son crayon, ce sont des phrases, ce sont des mots. Moi, ce sont des sons. Donc,
Vous pouvez écrire pour un spectre large, par exemple, pour un orchestre symphonique, mais aussi de la musique électronique. Vous faites feu de tout instrument, si je puis dire.
C'est-à-dire que tout ce qui peut produire des sons peut être utile, en tout cas, au développement de mon imaginaire sonore. Donc oui, je peux écrire aussi bien pour un instrument solo que pour un grand orchestre, en utilisant de l'électronique avec les instruments acoustiques pour les transformer en direct et puis les remélanger. Et ma quête personnelle, en tout cas, c'est l'inouï.
L'inouï ?
L'inouï, la chose que je n'ai pas encore entendu, que je n'ai pas réussi encore à toucher, à palper. Parce que en plus, il y a une chose qui différencie la littérature, le théâtre, le cinéma, c'est que la musique est une chose extrêmement abstraite. C'est une chose omniprésente, le son est omniprésent, mais en même temps, il est invisible. C'est-à-dire qu'on crée une entité totalement invisible que l'on ne voit pas, mais pourtant qui est extrêmement présente. On ne peut pas la voir. Et moi, mon rêve a toujours été de pouvoir au moins toucher ce son, le palper quelque part. En quelque sorte.
C'est beau ce que dit Yann Robin, de chercher l'inouï, des choses qui n'ont jamais existé. Finalement, être un créateur, c'est bien ce qu'il disait, Yannick Enel.
Oui, c'est passionnant, cette quête de ce qu'on n'a jamais entendu, et aussi cet impalpable dont il parle. Je ressens profondément la musique, moi qui ne fais que l'écouter, comme une matière qui nous file entre les doigts. Mais c'est pourtant une matière. Il y a un poids de la musique. Et chez Yann Robin, moi, ce qui me frappe dans sa musique, c'est son caractère éruptif. Il y a un soulèvement, c'est très, très énergique. Il y a une violence tectonique des éléments.
Il est composé sur le volcan.
Absolument. J'ai même assisté à, je ne sais plus si c'était la première, mais c'était la première à Strasbourg, il y a quelques années.
2009,
ouais. Et je dois dire qu'il y a quelque chose dans la musique contemporaine en général, et en particulier chez Yann Robin, qui est très loin des clichés comme ça, d'abstraction,
de
dissonance. Il y a un soulèvement de tout l'être, enfin, il y a une énergétique que font.
Pourquoi c'est pas populaire, la musique contemporaine? On vous écoute jamais sur France Inter, les compositeurs de musique contemporaine. Je me souviens un jour de Pascal Dussapin, ce micro, qui s'était mis à hurler parce que les radios ne diffusaient pas de musique contemporaine. Justement, parce qu'on a peur de cette dissonance, on ne la connaît pas, donc elle nous fait peur. C'est ça, Yann Robin?
Déjà, le mot peur, je pense, c'est à proscrire aussi un petit peu des mots que l'on utilise quand on parle de cette musique. Et souvent, on a peur de l'étranger, de l'étrange, des choses qu'on ne connaît pas. Et il se trouve que la musique dite contemporaine est restée, en fait, à l'école de Vienne, avec Berne, Schoenberg, Berg, disons qu'à presque 100 ans, j'exagère légèrement.
Mais on va jusqu'à Boulez.
Et jusqu'à Boulez, jusqu'au post-sérialisme. On en est resté là. Mais si l'on regarde aujourd'hui la scène de la création contemporaine, de l'art musical d'aujourd'hui, comme disait Claude Debussy à son époque, elle est extrêmement vivace, elle est extrêmement hétérogène. Il y a des musiques d'aujourd'hui qui vont vraiment dans tous les sens possibles. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mes confrères de ma génération qui n'écrivent pas du tout la même musique que la mienne, et tant mieux. Tant mieux, il y a des tas d'univers nouveaux qui naissent, qui existent, qui justement qui se servent aussi des musiques électroniques, qui se servent de la vidéo, qui se servent d'énormément de choses, et qui fait que oui, on en a peur de cette chose-là parce qu'on ne la connaît pas. Mais effectivement, s'il y avait plus d'espace pour pouvoir, en tout cas, la diffuser, la faire entendre, oui, les radios, ou pourquoi pas les télévisions aussi, soyons fous, cela permettrait aussi au public, au grand public, aux auditeurs, de s'ouvrir à de nouvelles choses.
À la Villa Médicis, il y a une dizaine d'années, Yann Robin et Yannick Enel ont un projet d'opéra, une sorte de grande mégalomanie subite qui va les réunir, et on a une œuvre qui s'intitule en 2018 Le Papillon Noir. C'est d'ailleurs un livre que vous pouvez trouver dans la collection L'Infini chez Gallimard. Le Papillon Noir 2018, musique de Yann Robin, livret de Yannick Enel, œuvre écrite, je cite, pour une actrice chanteuse, chœur et 13 instruments. On assiste à quoi, nous spectateurs, quand on voit cet opéra ou cette œuvre, on ne sait pas comment il faut l'appeler finalement.
Ben, un opéra monodramique ou un monodrame opératique, je ne sais pas. Parce que
le monodrame opératique.
Puisqu'il y a un seul protagoniste, une protagoniste, d'ailleurs.
Élise Chauvin.
C'est ça.
Soprano et comédienne.
C'est ça, exactement.
On va l'écouter alors.
Ben, si vous voulez.
Hein, on écoute un extrait de Papillon Noir.
Il n'y a rien. Qui me voit? Qui m'entend? Cette fois, j'y suis. Plus rien dans ma tête. Nulle part. Geste vide. Cette fois, j'y suis. Plus rien. Geste vide. Pourquoi chercher encore? J'y suis, chez moi. Cette fois, j'y suis. Je croyais que c'était loin, après les ombres. Un pays après les ombres. Mais non, j'y suis. Plus rien. Pas besoin d'ouvrir. C'est comme l'amour.
Il y a une forme d'abstraction là dans ce qu'on écoute, Yannick Enel. On ne sait pas exactement où on est. On peut avoir un peu peur avec ces voix que je ne saurais pas imiter, qu'on a bien entendu. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire en prenant le sexe d'une femme, puisque c'est vous finalement qui êtes cette femme à l'origine. C'est vous l'écrivain de Papillon Noir, Yannick Enel.
J'espérais que des mots puissent se dire en musique, et ce serait tellement merveilleux comme je viens de l'entendre là, si tout ce que j'écris, même les romans, se destinait à être dit ou chanté.
Ou faisait surgir de la musique.
Alors, je l'ai, moi, dans la tête, mais elle est très pauvre. Enfin, là, en l'occurrence, au fil des conversations, j'ai fait surgir, grâce à lui, grâce à son autorisation, puisqu'il m'a dit « Non, non, t'en fais pas, ce ne sera pas un livret d'opéra classique, ce ne sera pas des petits arias qu'on répète, tu peux y aller carrément. » Je me suis mis à écrire le monologue torrentiel, et de plus en plus trouée, d'une femme qui vient d'avoir un accident, qui rentre chez elle est au téléphone. Enfin, oui. Ça commence comme dans une pièce de boulevard, finalement. Elle rentre chez elle est au téléphone avec sa mère, elle parle, elle dit « Mais non, maman, t'en fais pas. » Parce qu'elle vient de croiser une voiture qui l'a percutée. Et on entre peu à peu, verbalement, dans quelque chose qui relève de la lacune, du hiatus. Elle perd peu à peu des mots. Il y a une prolifération de mots qui lui viennent, des souvenirs de sa vie.
Elle va dire souvent « je suis vivante, je suis vivante ».
Elle se raccroche à quelque chose par le langage. Elle sent bien que quelque chose se perd à l'intérieur de sa bouche. Et c'est sa vie même qui est en train de se perdre. J'essaye de dire, d'oser m'avancer au moins ma main ou mon stylo vers ce pays étrange entre vie et mort. Et donc là, c'est l'histoire. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire, mais c'est une voix qui progresse dans ce couloir. Est-ce que c'est le couloir de la mort? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le bardo? C'est Yann Robin qui m'a fait lire le livre des morts tibétains. En tous les cas, ce moment où l'on est défait.
Mais il y avait un peu de ces chants tibétains derrière la voix de la comédienne.
Justement, parce qu'il y a le texte de Yannick, en fait, qui conduit un petit peu cet opéra, même beaucoup, du début à la fin. Mais donc, c'est juste pour le dispositif, donc il y a cette actrice chanteuse, il y a un ensemble de 13 instrumentistes, l'ensemble multilatéral dirigé par Léo Verinsky, et un chœur, un ensemble vocal, les métaboles, il y a 12 chanteurs. 12 chanteurs, justement, pour essayer de retrouver ce lyrisme ou autre chose, en tout cas, qui est perdu par cette actrice chanteuse, puisque je ne l'ai pas faite chanter tel que on peut l'imaginer. Et donc, le chœur derrière, l'ensemble vocal, utilise des mantras qui viennent du livre tibétain des morts. Il y a 26 mantras.
Alors, une dernière question à notre Islandais de Rennes, Arthur Nozissiel. Vous avez mis en scène ce qui peut ressembler à du laboratoire. Hein. C'est en train quasiment de se créer devant nous et devant le spectateur. C'est pas facile de trouver sa place au milieu de tout ça?
Si, parce que, enfin, c'est assez facile parce que je dirais que le livret est très fort, la musique est hyper puissante. Élise est une interprète magnifique. Et puis avec Yves Godin, avec qui on a travaillé sur l'espace et la lumière, de créer le pavillon sonore dans lequel on va pouvoir, comme dans une oreille, comme le fond d'une oreille, de pouvoir recevoir le plus possible de la puissance de cette musique. Voilà, donc mon rôle a été plutôt d'organiser un peu ça, quoi.
Merci Arthur Nozissiel et Julien Robin, je vous souhaite beaucoup d'inouïs.
Merci.
Et ben, des heures encore à votre bureau en train d'écrire, Yannick Enel. On va vous lire bientôt avec les chroniques de Charlie Hebdo qui paraissent. Merci. Et puis on va lire cette nuit passée avec les tableaux de Bacon. À bientôt.
À bientôt, merci.
Marco Mutal a réalisé cette émission, Karen D et Fanny Leroy m'ont aidé à la préparer, Thierry Dupin a programmé la musique, il y avait à la technique Anne-Laure Cochet. Retrouvez-nous s'il vous plaît sur la page Facebook du Grand Atelier et pour réécouter l'émission, rendez-vous sur franceinter.fr.